Bonjour, alors bienvenue à tous. Alors nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Lucie Chenu et Estelle Valls de Gemis, auteurs donc des deux ouvrages sur lesquels nous allons discuter aujourd'hui, De Brocéliande en Avalon et Lancelot, le chevalier trouble. Cette rencontre a lieu dans le cadre dans un cadre multiple, puisque nous sommes invités par le service culturel de Bordeaux 3, par la librairie Mola, qui nous offre ce bel espace, et également par l'équipe de recherche CLAR, qui donc invite également nos invités. Alors, nos invités ont une riche actualité, donc j'en touche un petit mot. Estelle Valls de Gemis réédite en livre de poche Le Cabaret Vert et Les Gentlemen de l'étrange, et en même temps elle prépare le tome 2 des Gentlemen de l'étrange, qui va donc bientôt sortir. Elle a également en projet un roman graphique avec Natalia Pierre-Andréi qui s'intitulera Mademoiselle Rose.
Oui, normalement c'est une adaptation d'une nouvelle qui est dans un recueil.
Donc, voilà. Et puis également, on peut signaler l'anthologie Les Dames Baroques, puisque Estelle, comme Lucie, à la fois ont une production en tant qu'auteur, mais également dirigent des anthologies où elles rassemblent des textes d'autres auteurs. Estelle est également, par ailleurs, illustratrice. Et Estelle, que nous devons la belle affiche pour annoncer cette rencontre. Alors Lucie, de son côté, donc a une riche année 2010, puisqu'elle a publié des nouvelles chez plusieurs éditeurs, et deux anthologies, l'une intitulée Passage, consacrée au passage de l'adolescence, et une autre intitulée Contes de ville et de fusée. Elle a également publié un recueil de ses propres nouvelles,
pour changer,
Les enfants de septembre. Et puis on peut indiquer qu'est en gestation le tome 2 de Brocéliande en Avalon. Donc il commence à mijoter sur le feu.
Oui, je suis en train de faire travailler les auteurs. Donc j'ai déjà reçu quelques textes, pas encore tous.
Et en parallèle à cette activité d'écriture et d'édition classique, papier, et on peut signaler aussi la richesse de tes blogs, et en particulier un nouveau blog, Cœur de citoyen, avec un H.
Entre parenthèses.
Amovible.
Pour jouer sur le double sens du mot cœur, oui, bien sûr.
Qui se construit autour de liberté, égalité, fraternité.
Et qui est un blog collectif, là. C'est une idée qui m'a traversé l'esprit à un moment, mais heureusement, je ne suis pas toute seule pour m'occuper de ça. Ça serait beaucoup trop pour mes épaules.
Voilà, mais enfin bon, donc quelques idées de visite sur les blogs de nos invités. Et puis, Emmanuel Viezin nous fait l'amitié de bien vouloir mener l'entretien. Emmanuel est en Master 1 et prépare le CAPES. Et donc, a très gentiment bien voulu se charger de mener l'entretien avec nos deux invités. Donc, je vais leur laisser la parole. Merci.
Donc, je vais peut-être commencer par présenter les œuvres qui nous occupent ce soir. Donc, Le Chevalier Trouble d'Estelle Valls de Gemis se base en fait sur la légende arthurienne. Donc, voilà, c'est la base de son roman. Dans son avant-propos, on retrouve donc la légende telle que nous la connaissons, la quête du Graal. Les histoires qu'elle raconte dans ce roman, qui est séparé en plusieurs chapitres, et on peut dire que chaque chapitre constitue en fait une nouvelle. Ces histoires-là se trouvent dans un laps de temps où Lancelot abandonne quelque peu la quête du Graal, et le moment où Galahad, son fils, atteindra le Graal. Atteindra le Graal tout simplement. Et De Brocéliande en Avalon, de Lucie Chenu, est un recueil de nouvelles, une anthologie, qui se base aussi sur plusieurs légendes cette fois-ci. Alors on a la légende arthurienne de la quête du Graal telle que nous la connaissons, mais nous avons aussi des légendes moins connues qui sont issues des légendes celtiques en fait. Donc, je pense à Owen notamment.
Le personnage a été intégré dans le corpus arthurien.
Oui, c'est vivant.
Oui.
Mmh. Et c'est une. Je sais pas. Enfin, c'est sûrement une légende celtique qui est moins connue.
De toute façon, la matière de Bretagne, c'est une forme d'agrégat, si je puis dire, de mythologie, de rajouts courtois, chrétiens, païens.
Mmh. Voilà.
Et de fantaisie maintenant, très moderne.
Et en fait, dans la préface donc, de cette anthologie, préface de Lucie Chenu, on sent qu'il y a un vrai savoir universitaire sur la matière de Bretagne, enfin, en tout cas de bonnes références, que ce soit des connaissances, que ce soit actuelles ou même universitaires quand même. Il y a une bonne base, de bonnes connaissances de base.
Enfin, merci.
Personnellement, j'ai trouvé. Et donc la particularité de ces deux œuvres, c'est qu'il y a un certain imaginaire qui est développé à l'intérieur, donc une vision particulière d'envisager ce monde-là, de la légende arthurienne, la matière de Bretagne. Donc je vais commencer par vous, Estelle Vaz de Gomis. On remarque donc que vous accordez une grande part à ce qui appartient à votre imaginaire propre. Donc on rappelle que vous avez fait votre thèse sur le thème des vampires, que vous êtes attaché à, on va dire, un 19e siècle décadent, plutôt baroque, et on retrouve beaucoup de ces motifs dans vos nouvelles. Est-ce que vous pouvez expliquer comment vous est venue donc cette idée, comment a mûri ce projet chez vous, et pourquoi avoir voulu faire l'alliance entre... comment est venue cette idée, voilà, de faire l'alliance entre matière de Bretagne et vraiment des motifs qui appartiennent à une autre mythologie.
Ben en fait, j'aimais bien les deux thèmes séparément. Je m'étais pas spécialement intéressée à la légende arthurienne en tant que sujet d'étude, mais en fait, quand j'ai rédigé ma thèse sur les vampires, je suis tombée sur un livre de Jean Marcal qu'il avait consacré à Dracula, et dans un chapitre, il comparait Dracula au roi pêcheur, et donc il y avait beaucoup de choses qui tiraient vers la légende arthurienne, et donc en fait, je suis un peu partie, j'ai un peu fait des recherches dans ce domaine-là aussi, et en fait ça m'est resté. Donc quand est venu le moment de se pencher sur Lancelot, ben, ce que j'avais vu à cette occasion m'est un peu revenu, mais je l'ai réinterprété parce que je suis quand même pas une spécialiste du Moyen-Âge ni de la légende arthurienne non plus.
D'accord. Ce qu'on remarque notamment, que cet imaginaire tend à dénaturer quelque part la légende. Par exemple, à un moment donné, Galahad, donc, qui est censé être le chevalier pur, totalement tourné vers le céleste, couche avec des servantes, a des expériences très sensuelles. Est-ce que c'est vraiment un regard ironique porté sur ces légendes, ou en tout cas amusé? Est-ce que vous avez voulu jouer vraiment avec ces légendes?
C'est un regard assez amusé, mais je pense que... Dans l'histoire réelle, Galahad avait fait ses expériences avant de choisir le chemin de la pureté, je le comprendrais aussi. Donc c'est venu assez naturellement. Je me suis dit, bon, il faut connaître les choses avant de savoir lesquelles choisir. Donc voilà.
Okay. Très bien. Et on remarque aussi que vous arrivez très bien à construire des univers vraiment particuliers, que ce soit aussi dans votre anthologie. On remarque que le regard est très tourné vers la nature, qu'il y a une grande alliance entre la nature, les hommes, les animaux et les hommes aussi. Dans votre roman, c'est très frappant, cette relation qu'entretiennent les chevaux, les chevaliers. Les chevaux sont même, quelque part, on leur prête des sentiments humains par rapport à leurs chevaliers, et on se demande si vraiment dans la peinture que vous faites des paysages, ça tient vraiment de vos talents d'illustratrice dans la description des paysages et aussi dans la description des personnages féminins. Je trouve très frappant le souci du détail, des détails de couleurs. Ce ne sont pas des couleurs primaires comme le rouge, le bleu, c'est toujours Tyrien, Nakara, etc. C'est vraiment frappant, je trouve.
Ben, en fait, ben, pour le rapport entre les chevaliers et leurs chevaux, en fait, j'ai souvent remarqué que dans les légendes arthuriennes ou d'autres styles, il y a toujours une complicité en fait, entre le cavalier et sa monture. Donc je l'ai peut-être un petit peu accentué. Et c'est vrai qu'il y a un côté... la nature, pour moi, c'est un additif au chevalier qui lui vient en aide, en quelque sorte, ou qui l'apaise, ou qui le motive dans sa quête. Et aussi, c'est vrai que souvent, pour ce qui est de trouver l'inspiration, par exemple, quand j'ai écrit Lancelot, il y a certaines images qui me sont venues, par exemple, de celles que j'ai reprises sur l'illustration de Lancelot qui est assis dans un champ sur une pierre. C'est davantage des images comme ça qui me viennent et qui m'inspirent ensuite de construire une histoire autour qu'une histoire qui vient, à laquelle je rajoute les éléments ensuite. Et donc, ça me semble important d'avoir cet écrin, en fait, pour l'histoire, peut-être parfois plus que l'histoire elle-même, en fait. Et voilà, donc ouais, pour les couleurs et les descriptions, ça me tient à cœur aussi. Alors je sais pas si c'est un défaut d'illustrateur, mais c'est vrai que, ou d'amateur d'illustration en tout cas, mais c'est vrai que plus c'est détaillé, plus c'est recherché, plus ça m'intéresse. Voilà.
Merci beaucoup. Donc on va se concentrer un petit peu sur l'anthologie. On retrouve des auteurs avec qui vous avez l'habitude de collaborer. Et donc, comment vous leur avez présenté votre projet? Quelle était votre idée de base?
Alors, moi, je lis les légendes arthuriennes depuis très longtemps, avant que la fantasy ait remis un peu à la mode, si je puis dire, le roman courtois. Et c'est vrai que j'avais un peu envie de savoir, plutôt que transposer les mythes, je leur ai demandé de transposer les personnages. Ce qui m'intéressait, c'est ces personnages que je côtoie, si je puis dire, depuis mon enfance ou presque. Arthur, Guenièvre, Morgane, Lancelot et les autres. S'ils vivaient à notre époque, seraient-ils aussi preux? Est-ce que Guenièvre serait considérée aussi comme l'épouse infidèle? On est tellement différents maintenant. Est-ce que Morgane serait aussi la sorcière dont il faut se méfier? Enfin, que vivrait-il? Que ressentirait-il? Et comment serait-il vu et perçu par les autres? Et en fait, j'ai demandé aux auteurs de s'emparer des personnages et de les transposer de la façon qu'il préférait. Ça pouvait être un voyage dans le temps, ça pouvait être une réincarnation, ça pouvait être des personnages qui avaient vécu, qui n'étaient jamais morts depuis les temps arthuriens. Ce que je voulais, c'était les confronter à notre époque. Voilà.
D'accord. Merci beaucoup. Et on remarque donc que la même idée revient... que ce soit dans votre roman ou dans votre anthologie, on remarque que c'est très très tourné vers la magie, que les histoires de chevaliers, les chevaliers sont souvent aidés par des sorciers. Les personnages principaux de votre anthologie, sauf Lancelot aux Enfers, est désaccordé. Enfin, beaucoup de vos nouvelles sont axées sur Morgane. Le personnage de Morgane est très présent, celui de Merlin aussi.
Morgane a énormément séduit les auteurs. Il y a presque eu un moment où je me suis dit, mais toute l'anthologie va être axée sur Morgane, ça va être déséquilibré s'il y a un texte seulement qui n'est pas sur Morgane. Ça m'a un peu posé un problème, d'ailleurs. Et en même temps, comme moi aussi, j'aime beaucoup Morgane comme personnage. C'était... La magie, je pense qu'on est des auteurs de fantasy, donc la magie a fait... partie de notre façon d'écrire, plus ou moins. Je ne sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Estelle?
Moi, j'imaginais pas tellement que toutes les aventures se passent sans l'intervention d'aucun magicien, puisque on a l'habitude. C'est un peu. Je sais plus si c'était. Excusez-moi. Il y a toujours, en fait, par exemple, je parlais de la nature ou des animaux qui viennent en aide aux chevaliers. Il y a toujours un magicien, que ce soit même dans des choses plus modernes comme le Seigneur des Anneaux et tout ça. On a Gandalf, s'il n'y a pas Gandalf, attention, on ne va pas s'en sortir. Mais c'est vrai que ça paraît évident de mettre de la magie dans quelque chose qui semble en fait tellement différent de la réalité. Enfin, je pense que ce qui fait aussi que les chevaliers sont différents des hommes modernes comme nous, c'est pas tellement leur valeur, parce que bon, il y a des choses qu'on retrouve, le courage, la loyauté, le dévouement, des choses comme ça. J'espère qu'on les retrouve chez pas mal de monde, mais c'est vrai qu'en fait, ça, sans une petite touche de magie, je pense qu'ils finiraient pas leur quête souvent, donc ça paraît indispensable qu'il y ait un magicien ou une magicienne pour les soutenir. C'est un petit peu
la croyance dans le merveilleux, le rapport avec le sacré presque.
Un genre de... qu'on n'a pas en fait dans le monde moderne.
D'accord. À l'inverse de certains, quand je lis des ouvrages inspirés de la matière de Bretagne qui ne contiennent pas la moindre once de magie, j'ai du mal, j'ai l'impression d'un plat sans sel.
D'accord.
Je peux trouver que les ouvrages sont de qualité, mais ils ne sont pas pour moi. Quoi.
La magie est vraiment indispensable.
Pas pour toutes mes lectures, mais en tout cas...
Sur la matière de Bretagne.
Il faut s'entendre sur le terme magie. Il y a quand même... Ça peut être quelque chose de très subtil.
Oui.
C'est pas obligatoirement la sorcellerie avec Harry Potter ou bien Charm. C'est plus un rapport au mythe. Je crois que c'est la magie qui fait le rapport au mythe.
Ça serait un genre de pont en fait entre l'humain et le divin, quoi, si on peut dire, quoi, je pense. La magie.
Ou l'autre monde.
Voilà.
On en parlait tout à l'heure. Oui.
D'accord. Très bien, merci. Et à la lecture de vos deux œuvres, il y a un thème qui paraît essentiel, qui est très présent dans votre anthologie et qui est également très présent dans votre roman, c'est le thème de l'identité. Votre roman s'intitule Lancelot ou le chevalier trouble. Donc on voit bien qu'il y a un trouble dans l'identité et Lancelot rencontre... Des doubles de lui-même tout au long de ces histoires. Et de votre côté, on a l'impression que les personnages de légende se rendent compte de leur propre nature et de ce qu'ils représentent. Par exemple, c'est très très présent dans la nouvelle L'île close de Lionel Dabhoust, où Arthur se rend compte qu'il n'est qu'un concept et qu'il ne peut pas évoluer, où tous les personnages finalement s'en rendent compte et qui a besoin d'évoluer. Guenièvre s'en rend compte, mais par inadvertance, et elle l'oublie aussitôt.
Qu'ils revivent un peu éternellement les mêmes événements, et en fait c'est une nouvelle qui joue sur les archétypes et qui est très très difficile à expliquer ou à résumer tellement elle est originale. D'ailleurs, c'est une nouvelle qui a été primée, qui a été traduite, qui est parue aux États-Unis. Enfin bon, je suis contente de l'avoir publiée, cette nouvelle. C'est vrai qu'il y a quelque chose avec l'identité, l'oubli. Et bon, j'ai fait une anthologie qui s'appelle Identité, en pluriel, qui a failli s'appeler Identité Puzzle, et où Lionel Dabhoust, le même, a écrit une nouvelle intitulée Bataille pour un souvenir, dont le thème, ce sont des guerriers qui, pour acquérir plus de force dans un combat, donnent une part de leur mémoire et choisissent d'oublier des pans de leur vie. Il a une façon de jouer avec l'identité et avec la mémoire qui est assez étonnant. Et je trouve que ces deux nouvelles mises en parallèle se répondent, oui. C'était quoi la question?
La question, c'est pourquoi ce thème est-il si présent? Est-ce que vous avez choisi les nouvelles en fonction de ce thème-là qui est présent dans quasiment toutes les nouvelles ou
Je pense pas avoir choisi les nouvelles en fonction de ce thème-là, mais je pense que dans ma façon de demander aux auteurs de prendre un personnage issu du Moyen-Âge, voire même de l'Antiquité, et de le transposer à notre époque, un personnage mythique, le transposer dans un environnement de notre quotidien, je pense que là, je fais provoquer un slash, et effectivement, une question identitaire, oui. Alors maintenant, pour que j'aille me poser des questions, dire, voilà, je voudrais bien avoir des personnages mythiques transposés, c'est qu'effectivement, je dois, quelque part, je devais déjà ruminer le thème de l'identité, peut-être.
Merci. Et vous, du coup, le fait que Lanceau se retrouve face à des miroirs de lui-même, comment c'est venu? Pourquoi avoir choisi de le représenter, enfin de le caractériser par un trouble de l'identité, quelque chose.
Le thème du double, enfin des personnalités, ouais, double ou multiple, c'est quelque chose, ça m'intéresse. Enfin, il n'y a pas que dans Lancelot que je l'ai abordé. Mais c'est vrai que Lancelot, c'est quand même un chevalier qui a une personnalité un peu ambiguë, puisque c'était censé être le bon chevalier qui découvrirait le Graal, et puis il a fauté, alors il ne l'a pas découvert. Et je pense qu'il a un peu de mal, dans le personnage que j'ai créé, il a un peu de mal à se définir par rapport à lui-même et par rapport à ce que les gens attendent de lui. Donc je pensais que c'était intéressant qu'il rencontre des doubles de lui-même qui lui renvoyaient une image plutôt négatif pour se remettre en question. Et donc, du coup, j'ai introduit son écuyer aussi pour qu'il y ait un petit peu comme sa bonne conscience et ce genre de, pour qu'il essaye de se définir en fait par rapport à lui-même. Mais je pense que c'est le thème du double, c'est quelque chose qui est assez présent dans la littérature en général et qui est assez présent en fait en chacun de nous, parce qu'on a toujours un peu de mal à définir qui on est, qu'est-ce qu'on veut, est-ce qu'on agit bien, est-ce qu'on agit pas bien, est-ce qu'on a envie d'agir bien ou pas bien. Et je pense que c'était intéressant de le transposer sur un chevalier qui justement avait ce problème peu pour se définir.
Est-ce que Lancelot, il porte pas en lui-même le thème du double? Parce que, comme par hasard, c'est son fils qui va trouver le Graal, et comme par hasard, son fils s'appelle Galahad. Et Galahad est le véritable nom de Lancelot. Donc Galahad, c'est un double de Lancelot. Et Lancelot est lui-même un double de Gauvain, puisqu'il a remplacé Gauvain dans les plus anciens textes. Donc il est un double. Et on peut même aussi le voir comme un double d'Arthur, puisqu'il est l'amant de la reine, et que dans certains textes, on considère que la reine donne le royaume, que est celui qui règne, celui qui est l'amant de la reine. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. Donc voilà, je pense que... Voilà.
D'accord. Merci. Dans vos deux ouvrages, dans vos deux œuvres, on trouve aussi l'idée que la quête doit être lancée. Et ça termine vos deux œuvres, bien que dans l'anthologie, ça soit repris assez souvent. Et on se demande, par exemple, pour vous, vous créez le personnage d'Arpad, qui est donc le fils de Morgan et de Merlin. Et pendant toute la nouvelle... Et pendant toute la nouvelle, ses origines sont couvertes de mystères, on ne sait pas trop. On découvre que Morgan est sa mère, puis plus tard, l'origine est complète. On sait que Morgan est la mère et Merlin le père. Et là, ça retombe. Il y a donc cette phrase très énigmatique, mais ceci est une autre histoire. Est-ce que.
C'est frustrant. Tu veux pas nous la raconter?
Ma question tombe un peu à l'eau. Du coup, je me demandais si vous n'avez pas comme projet de faire un roman qui parlerait plus précisément de Galahad, d'Arpad, et d'imaginer comment ils atteignent le Graal et comment ils y arrivent. Terminer un peu la légende vous-même.
En fait, c'est un peu le projet que j'avais au départ.
D'accord.
Et après, je ne sais plus pourquoi je suis repartie uniquement sur Lancelot, parce que Lancelot, en fait, c'était un personnage que je n'aimais pas tellement au départ. Et après, je me suis dit, il est peut-être un peu plus profond que ce qu'il en a l'air, quoi. Donc, je me suis réintéressée à Lancelot. Mais en fait, c'est un peu un reproche que je peux me faire, c'est de créer tout un événement autour d'un personnage qui va arriver, et puis finalement ça retombe comme un soufflet, parce que finalement je repars sur l'histoire des autres et je me le garde pour plus tard, mais bon, plus tard on sait pas quand, quoi. C'est un peu ma quête du Graal, arriver à finir une histoire complète, et en même temps c'est vrai que ça me paraissait intéressant de créer un fils à Morgane et à Merlin, parce que je comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait, quoi, mais ça me paraissait logique. Mais après, c'est vrai que c'est des choses à creuser, et en fait, quand j'écris, j'y pense pas toujours, je me dis pas, tiens, il va falloir que je continue là-dessus. Donc j'ai un peu, je me laisse un peu... De marge sur le futur des personnages, et aussi parce que j'aime pas non plus terminer une histoire, on dit voilà, on a trouvé, par exemple on a trouvé le Graal, alors ça y est, l'histoire elle est finie, donc on verra plus les personnages. J'aime bien savoir qu'on peut continuer si on a envie, quoi.
D'accord, mais là ça resterait cohérent, hein, si vous continuez à développer ces personnages là cette relation là puisque cette nouvelle se trouve à la fin du recueil, enfin du roman. Donc finalement,
En fait, je pensais partir aussi sur un autre roman où il y aurait uniquement Guildeval, l'écuyer de Lancelot. D'accord. Mais il va sûrement rencontrer les autres au détour d'un bois, quoi. Donc en fait, je les laisse tous en toile d'araignée là, et j'attends de les réunir un petit peu plus tard. Mais ça répond pas à votre question, mais bon, c'est...
Et en ce qui concerne notre anthologie, finalement, on se demande s'il n'y a pas un regard assez pessimiste qui est porté sur le monde actuel, puisqu'il est souvent question que ce monde dans lequel nous vivons est dépourvu de magie, que la magie est remplacée par de nouvelles technologies, qu'elle existe, oui, mais qu'elle est bien cachée et qu'il faut se permettre de la recevoir. Et la dernière nouvelle de l'anthologie, qui se nomme Désaccordée et qui est de Léa Sciol, met en scène le personnage de Galahad, qui est retrouvé donc, dans le monde actuel par Bohort et Perceval. Perceval. Et qui refuse d'aller à la quête du Graal parce qu'il est complètement désabusé et qui finalement rejoint les forces
magnifiques. En fait, qui refuse de retourner en quête du Graal parce que la quête du Graal a été accomplie. En fait, il y a un jeu de mots sur le titre, donc je vais le donner en entier. Ça s'appelle « Désaccordé » et entre parenthèses « turned in dagdagd ». Et il y a un jeu de mots entre le D-A-G-D-A-D qui est un accord open quand on joue de la guitare, d'accord, et les Dagda, le Dagda qui était un personnage de la légende, avec les... Je ne sais plus très bien, le Dagda, c'était un dieu celte, voilà, oui. L'époque des Tuatha, des Dana, etc. Donc, il y a tout un jeu de mots, parce qu'en fait, effectivement, son Galahad est guitariste. Et donc, il est complètement intégré à notre époque. Et il ne veut surtout pas repartir en quête du Graal avec les deux puristes qui viennent le relancer dans son pub. Et il y a donc un désaccord entre ces personnages. Donc... Je ne sais pas si c'est pessimiste. S'il y a un pessimisme par rapport à l'absence de magie, peut-être dans certaines nouvelles. Il y a un pessimisme dans celle de Bordage, parce qu'il est question d'une guerre. En même temps, lui reprend véritablement une scène de la légende arthurienne. Donc, il la transpose. Donc, à côté de ça, celle de Jean Milman, elle n'est pas pessimiste. Au contraire, elle est...
Oui, mais finalement, Merlin et Viviane vont vers Avalon et laissent le monde notre monde s'écouler tout seul. Enfin,
oui, sauf que les lieux décrits par Jean Milman existent. Sauf que on peut tous être des Merlin et des Viviane, et que c'est le choix qu'ils font peut être un choix de vie. En fait, je crois qu'elle se lit à plusieurs niveaux, cette nouvelle. Je sais pas si c'est si pessimiste que ça.
Peut-être un regard peut-être un petit peu désabusé sur le monde actuel, peut-être un peu triste par rapport à l'actualité, par rapport aux guerres, par rapport vraiment sur je sais pas.
Enfin, c'est peut-être aussi un ressort narratif.
D'accord.
Je sais pas. Là, il faudrait poser la question aux auteurs, et je pense qu'il y aurait autant de réponses que d'auteurs. Parce que la nouvelle d'Adam Roy est très drôle. Je crois qu'il y a des émotions différentes. Mais c'est vrai qu'elle se termine par des nouvelles de tonalité plus sombre. Donc peut-être qu'on ressort de la lecture de l'anthologie avec effectivement l'idée que c'est triste. Je pense que c'est les deux dernières nouvelles, surtout.
Donc, vous avez en projet de faire une nouvelle anthologie sur le même thème.
Oui.
Et du coup, comment avez-vous présenté ce projet aux auteurs? Est-ce qu'il va différer de celui-ci ou...
Je sens que ça va être totalement différent, parce que, d'après ce que j'ai reçu, je ne peux pas en parler trop, parce que, déjà, je ne peux pas parler de textes qui ne sont pas encore publiés, donc ça, c'est pas possible. Mais je l'aurais présenté de la même manière. Voilà, je voudrais... que vous transposiez un ou quelques personnages arthuriens dans une époque moderne pour les confronter un peu, voir ce que ça donne. Et ça donne des choses qui me surprennent. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc je crois qu'elle sera assez différente comme anthologie. C'est difficile d'en dire plus pour le moment.
Je me posais des questions également sur votre nouvelle qui est intitulée Le Bourreau. On sent bien que, enfin, on sent que c'est le, il y a un mythe autour du bourreau que vous avez créé. Enfin, j'imagine que vous avez créé ce mythe-là.
Non, on ne crée rien en littérature.
Mais voilà, pourquoi avoir consacré une nouvelle qu'au bourreau? Parce que finalement, Lancelot suit le personnage de loin. Et en quoi le rapprocher de cette figure-là, finalement, enfin...
Mais en fait, le bourreau, donc c'était une nouvelle qui, au départ, c'était une nouvelle que j'avais écrite à une époque antérieure et qui est parue dans un autre de mes recueils. Et qu'en fait, qui mettait en scène un bourreau qui avait donc un physique proche de Lancelot. Et en fait, quand je me suis repenchée sur Lancelot pour faire ce bouquin-là, j'ai repensé à cette nouvelle, parce que je me suis dit, il a un peu des problèmes d'identité aussi, de rôle à jouer, un petit peu les mêmes que Lancelot. Donc je me suis dit, en même temps, ça peut être un genre de... pas de bouffée d'air pur, parce que bon, mais un genre de récréation, entre guillemets, dans la quête de Lancelot, où on n'est pas pris dans une aventure où il y a des méchants qu'il faut trouver et tuer. Donc en fait, ça repose un peu, et en même temps, ça pose toujours ce problème du double, de l'identité, du rôle à jouer, quoi, d'être bon, d'être mauvais. C'est un petit peu, je tourne toujours un petit peu autour des mêmes thèmes, quoi. Et ouais, ça me paraissait intéressant de m'intéresser aux personnages des bourreaux, même si on en voit souvent dans la littérature, parce qu'ils sont surtout... Enfin, là aussi, il est là comme accessoire, mais c'est comme on peut le relier au personnage principal, ça lui donne une profondeur supplémentaire.
Parce que finalement, il ne correspond pas à l'image qu'on se fait du bourreau, qui est un grand costaud, bourru et sans pitié. Celui-là est sensible, il a un physique assez gracieux...
Je pensais plus au rôle du bourreau en tant qu'exécutant qu'en tant que personne qui torture les autres ou qui les punit, quoi. Donc voilà, et comme en fait, bon, souvent en chevalerie aussi, c'est un petit peu... Bon, ça tranche des têtes, ça coupe des bras, on se demande toujours si c'est une bonne chose ou pas, donc je me suis dit que je pouvais le rapprocher de ça, en fait.
Dans votre... Oui. Alors, dans La nuit du chasseur, qui est une nouvelle, donc du recueil...
Avec Robert Mitchum.
C'est ça.
Hey,
avec
Hello.
Robert Mitchum. Petit clin d'œil. Et dans d'autres de vos nouvelles, comme Terre de Brune, donc clin d'œil à la maison d'édition, j'imagine, on peut faire un rapprochement avec le conte. Les contes vraiment traditionnels, je pense à Blanche-Neige, à La Belle au bois dormant. Est-ce que c'est vraiment voulu ou est-ce que c'est des images qui vous sont apparues pendant la rédaction et que vous avez voulu rapprocher?
Non, là, pour La nuit du chasseur, en fait, c'est, je ne me rappelle pas bien, c'est celle où il y a une femme qui se perd dans les bois. En fait, je voulais revisiter un petit peu les thèmes vampiriques dont je suis plus spécialisée que des thèmes de chevalerie. Et je pensais aux histoires avec Varney le vampire qui vient gratter la nuit à la fenêtre des jeunes filles, qu'on voit un peu décoller le ciment avec ses doigts griffus et tout. Et ça me fait Nosferatu, ce genre de choses. Et en fait, je me suis aperçue qu'en le transposant dans les époques de chevalerie au milieu de la forêt, donc bon, la forêt, évidemment, c'est un peu le lieu où... C'est peut-être un peu en rapport avec le thème du double aussi, c'est un peu le lieu où on est face à ses peurs et où on se découvre, et après, enfin, c'est un peu une initiation. Et en fait, je me suis aperçue qu'en le transposant dans la légende arthurienne, ça ressemblait à des contes, par exemple, oui, comme Blanche-Neige et des choses comme ça. Mais c'est pas spécialement voulu, mais c'est vrai que je m'en suis aperçue en cours de rédaction, et ça m'a pas gênée, quoi, en fait.
D'accord. En fait, vos techniques de rédaction... parfois surprenante, enfin pour cette nouvelle.
De technique.
Voilà. C'est vraiment fait. Est-ce que c'est vraiment des choses qui sont ce que veut des fois. Enfin, c'est quand même très intéressant. Par exemple, dans la même nouvelle, le passage où le vampire arrive, il gratte justement à cette. C'est très lent et c'est quasiment cinématographique. Ça ressemble vraiment à des films, comme Nosferatu. Et donc ça, je me demandais si c'était vraiment une technique que vous aviez voulu vraiment mais approfondir, ou si c'était vraiment venu comme ça.
Non, c'est vraiment en repensant à Varney, à des romans comme Varney le vampire ou comme Nosferatu, que j'ai voulu essayer de voir si j'arrivais à reconstituer ce que je ressentais, soit en lisant les bouquins ou en voyant les films, de voir si on pouvait refaire cette image lente, un peu stressante d'un vampire qui essaye d'entrer dans une maison, quoi. Mais c'est vrai qu'après, je ne peux pas vraiment parler de technique quand j'écris. J'ai pas vraiment une idée de nouvelle complète qui vient. C'est pas des flashs, mais je vois un personnage dans une scène à qui il arrive quelque chose, et après j'essaye de broder autour. C'est pour ça que c'est pas toujours abouti, parce que je suis davantage intéressée à observer ce que va faire le personnage et comment il va évoluer qu'à finir complètement son histoire. Donc c'est peut-être un peu gênant pour les lecteurs, mais c'est vrai que pour moi en tant qu'auteur, c'est agréable, parce que je sais que... Même si je m'intéresse à un sujet, je ne vais pas aller jusqu'au bout et qu'il me restera toujours quelque chose à découvrir sur ce sujet. Il ne faut pas que ça finisse, en fait. Et c'est aussi pour ça que j'essaye de reprendre des choses qui m'ont intéressé moi en tant que lectrice ou en tant que spectatrice, pour essayer de revivre de ressentir à nouveau l'intérêt que j'ai eu à voir ces choses-là.
Merci. Et dans votre anthologie, il y a une nouvelle qui vraiment se démarque des autres de par son thème, de par son originalité, c'est Lancelot aux Enfers. Et si vous pouviez un petit peu nous en parler, nous dire quel regard vous avez sur cette nouvelle-là, ce qui vous semble intéressant.
Je trouve aussi que c'est l'une des nouvelles les plus originales de Lanto. D'ailleurs, c'est une nouvelle qui a été reçue de façon très différente selon les lecteurs. Il y en a certains qui ne l'ont pas du tout aimée, et au contraire, d'autres qui l'ont adorée. Alors que les autres, il y a des avis plus homogènes sur, selon les goûts, certains préféraient l'une ou l'autre. Mais c'est vrai qu'elle est très originale. Et donc c'est une nouvelle qui est signée Adam Roy, qui est un pseudonyme, et ce n'est pas du tout caché, c'est l'un des pseudonymes de Léo Lamarche, avec qui j'avais déjà travaillé auparavant, et avec qui j'ai déjà travaillé, encore travaillé par la suite. C'est une Léo, je précise. Et donc, on voit Lancelot au Moyen-Âge, qui franchit une barrière temporelle, et qui se retrouve à notre époque, donc un petit clin d'œil aux visiteurs, parce que c'est effectivement le chevalier qui débarque, qui comprend rien à ce qui se passe, les routes, les voitures, etc. Et puis alors, des gros clins d'œil à X-Files, puisqu'il y a un couple de policiers qui s'appellent Mulder et Scully.
Scully,
oui, c'est légèrement transformé. Et donc, qui mène l'enquête. Et c'est une nouvelle donc, qui joue complètement sur l'humour et qui joue sur les notes de bas de page. Il y a plein de notes de bas de page pour expliquer, parce qu'en fait, elle est présentée comme étant la découverte d'un texte. Bon, en même temps, ça fait un petit moment que je l'ai lu. Mais j'ai pas les lunettes pour lire en plus. Donc, oui, elle est présentée comme étant la découverte d'un texte. Et donc, il y a des tas de notes de bas de page pour expliquer ce qui se passe. Et effectivement, ce sont la technique des notes de bas de page. Ce sont pas du tout des notes de bas de page explicatives. Ce sont des notes de bas de page drôles qui font rire. Là, je pense qu'on peut parler de technique. C'est une technique que Michel Pagel a employée dans plusieurs de ses romans, quoi. C'est une technique qui est un petit peu employée donc en littérature, et qui, là, pour le coup, accentue encore le décalage de ce chevalier qui massacre tout ce qu'il raconte, tout ce qu'il rencontre, et de ces Mulder et Scully qui cherchent à comprendre ce qui se passe. Après, qui est Scully exactement? Il y a aussi tout un jeu là-dessus. Encore un jeu sur les identités.
Encore un jeu sur les identités, en ce qui concerne Mulder aussi, puisqu'il y a une note qui est absolument géniale où Adam Roy, donc Léo Lamarche, explique que Mulder, bah, c'est en fait Mulder, et c'est tout à fait justifié, puisqu'il y a eu une diphtongaison spontanée, etc. On sent, enfin, je ne sais pas si l'auteur est spécialiste du monde médiéval, que ce soit au niveau de la langue ou au niveau de tout ça, mais il y a un imaginaire qui est quand même très, très original, et en tout cas qui emporte vraiment le lecteur dans un monde totalement farfelu, mais en même temps très intelligent.
Alors, non, elle n'est pas une spécialiste du monde médiéval. En fait, Léo Lamarche est surtout connue pour des romans noirs ou des nouvelles noires. Et elle est venue au fantastique par le biais d'une anthologie intitulée Rockstar, dirigée par Thomas Bauduret chez Ney Stevenson. Et moi, c'est là que je l'ai lue pour la première fois. Et j'ai eu l'occasion donc de lire d'autres de ses textes et de travailler avec elle, plus sur le côté Léo Lamarche écrit du noir. Mais il y a aussi une Léo Lamarche qui écrit et donc qui publie sous le pseudonyme d'Adam Roy, qui écrit pour la jeunesse et des histoires beaucoup plus drôles. Voilà. Donc, mais non. Non, je ne crois pas qu'elle soit une spécialiste. Je pense que si les auteurs ont répondu présent, c'est qu'ils étaient au moins intéressés. Mmh.
D'ailleurs, pour rebondir donc, sur cette notion, la légende arthurienne intéresse un peu tout à chacun. Donc, notre séminaire à l'université s'appelle Médiéval Marginal. Et donc, peut-être qu'on peut poser la question, qu'est-ce qui est dans cette légende-là, vous intéresse au point de former un tel projet, ou en quoi cette légende trouve un écho en vous, vous porte en fait finalement?
Je crois que les réponses n'ont pas été les mêmes selon les époques. La réponse que je ferais maintenant serait une réponse plus élaborée, plus artificielle, plus construite. Mais en fait, je crois que avant, quand je l'ai découverte, c'était un conte de fées pour adultes. Voilà. C'était un conte de fées qui n'avait pas été abêtisé pour les enfants, si on peut dire. Parce que je pense que les contes de fées étaient des contes de fées pour adultes, mais que nous n'avons généralement lu que les versions pour enfants. Mais oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'était... Puis c'était des personnages... des personnages fascinants qui ne sont pas monolithiques, qui peuvent être à la fois le meilleur chevalier du monde et l'ami qui trahit son roi. Je ne sais pas répondre à cette question.
moi je l'ai un peu dit tout à l'heure, ce qui m'intéresse qui m'intéressait déjà à l'époque dans la chevalerie, c'est les valeurs de la chevalerie en fait, la loyauté, le courage, persévérer, lutter contre le destin un petit peu pour arriver sinon à ce qu'on veut, du moins à transformer ce qui est contre nous, transformer les obstacles en tremplin en fait. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse dans les chevaliers, c'est leur détermination leur valeur quoi en fait, et aussi le fait que on voit souvent qu'ils sont imparfaits. Enfin, personnellement mon chevalier préféré c'est de la légende arthurienne, c'est Gauvin, et on voit bien chez lui qu'il y a une dualité entre ses valeurs et puis souvent il fait un petit peu n'importe quoi si je puis dire quoi, et c'est ça qui m'intéresse en fait. C'est je pense qu'on peut retransposer certaines de ces choses quand soi-même on se construit quoi dans sa vie.
On remarque dans votre roman que finalement vous dites ne pas avoir de connaissances plus que ça vraiment poussées sur ce monde-là. On remarque que les personnages sont vraiment fidèles à eux-mêmes finalement, puisque Lancelot est ce personnage courageux, le chevalier presque parfait, puisque le chevalier parfait sera son fils, qui est à la fois courageux, persévérant, mais aussi très naïf. Et on retrouve des preuves de sa naïveté un peu partout, quand il arrive dans Terre de Brume. Quand il se trompe de sens sur le mot temps, on voit que il réfléchit pas vraiment et que plus tard il y arrivera, mais pas tout de suite. Pour Gauvin, ça joue aussi ce côté, c'est le chevalier courtois par excellence, le parent de courtoisie, et on le retrouve ici aussi. Donc Gauvin est toujours prêt à sauver les demoiselles en détresse, il se laisse séduire très très facilement, et puis mais ça reste quand même un modèle de courage, etc. Et Perceval, alors Perceval, vous l'avez transformé en chien. C'est intéressant aussi, puisque finalement, vous aussi, dans une nouvelle... Il définit comme étant l'éternel imbécile, je crois, un éternel imbécile, dans l'île close de où il se met le Graal sur la tête, et puis il est comme ça. Là, c'est un chien que Lancelot flatte.
Perceval, ça me fait entre guillemets, mais on a toujours l'impression que c'est un abruti. Et je m'étais jamais trop intéressée à ce personnage-là, à part dans le cycle du Graal de Jean Marcal que j'avais lu, où justement il n'était pas trop traité comme un idiot. Mais après, je sais plus, je suis repartie sur, je sais plus, peut-être Chrétien de Troyes ou j'en sais rien, qui en parlait. Et je commence à lire le truc, je me dis, mais alors lui, quoi, c'est l'idiot du village, il sort faire sa quête, on ne sait pas pourquoi. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas, c'est pas parce qu'on. Enfin, j'en ai fait un chien parce que je trouvais que c'était typique. Les gens, ils disent, oh, les chiens, ils sont cons et tout. Mais en fait, je pense qu'un chien, c'est justement typique loyauté, fidélité, courage, persévérance et naïveté également. Donc je me suis dit, en fait, transformer Perceval en chien, c'était assez logique pour moi. Et en même temps, c'est un peu pour... Ouais, c'est pas pour dire que n'importe quel idiot peut faire la quête du Graal, mais je veux dire, on a toujours l'impression que tel chevalier est plus valeureux que l'autre, ou que telle personne est plus valeureuse qu'une autre, alors qu'en fait, je pense que ce qui est incarné par Perceval, c'est que vraiment, si on est courageux et qu'on a envie d'aller jusqu'au bout, on peut. Par exemple, dans le film de John Borman, Excalibur, c'est surtout Perceval qui ressort, quoi, à la fin. Et donc, je me disais, bon, il n'y a pas de raison que... Enfin, en même temps, je l'ai transformé en chien, parce que je me disais, ça conforte cette idée qu'il est un petit peu idiot, quoi. Et en même temps, je voulais le faire ressortir aussi par rapport aux autres, justement, en le transformant en chien, parce que c'est pas simplement... Bon, c'est vrai que même dans Camelot de Astier, Perceval, il est complètement abruti, mais en fait, le personnage que les gens préfèrent, en général, c'est Perceval, quoi.
Ah, donc, c'est le personnage le plus intéressant, ouais, presque.
Donc bon, c'est... Ouais, je pense qu'il a, un certain charme, mais en fait, il peut... Enfin, le Perceval, ça montre que... C'est pas la peine d'être au-dessus des autres pour partir faire sa quête, quoi.
Alors que dans votre anthologie personnelle, on le retrouve dans la nouvelle Force 53, qui est beaucoup plus sombre. Et on voit, donc là aussi, le personnage est respecté. Il est élevé à part par sa mère, il choisit d'être chevalier, etc. Et là, on a une vision plutôt sombre de Perceval à côté d'un autre Perceval dans une autre nouvelle qui est défini comme un imbécile, un parfait imbécile, un éternel imbécile. Et...
Mm-hmm. Oui, et puis il apparaît aussi dans la nouvelle de Léa Silol. Mais c'est vrai que Force 53, en fait, reprend... la scène transpose dans un avenir proche, je pense, enfin oui, dans l'univers de Bordage qu'il a décrit dans sa trilogie, les titres m'échappent, dans des ouvrages qui étaient parus aux éditions Au Diable Vauvert. Et donc il reprend la scène où Perceval est en quête et il arrive dans le château du roi pêcheur et il ne pose pas les bonnes questions, il ne demande pas quelle est cette lance qui dégouline de sang et qu'on trimballe d'une pièce à l'autre, il ne demande rien. Et là, c'est la même scène, sauf qu'il s'agit d'un soldat qui est perdu et qui se retrouve recueilli ou fait prisonnier, on ne sait pas trop, dans un fort tenu par l'ennemi. Et il ne pose pas les bonnes questions. Et en fait, donc c'est la même... Oui, Pierre a parfaitement répondu au challenge que j'avais posé, quoi. Que serait Perceval maintenant ? Ben, ça serait un brave petit soldat qui ne réfléchit pas, qui obéit aux ordres. Et peut-être que c'était aussi ça, Perceval. On peut le voir comme un personnage naïf, touchant, très, très drôle. Son duo avec Bohort dans Camelot, c'est effectivement... c'est génial, j'adore. Mais c'est aussi... C'est aussi un personnage qui fait peur parce qu'il n'a jamais appris à réfléchir, il n'a jamais appris à prendre d'initiative et il obéit aux ordres et il ne pose pas les questions. Comme un chien. Sauf que moi j'ai connu des chiens qui posaient plus de questions.
Chien rebelle.
Oui.
Il y a une nouvelle qui reste assez obscure. Enfin, j'ai du mal à savoir vraiment ce qu'elle veut dire. Enfin, quel est ce que l'auteur a voulu dire et représenter. C'est la nouvelle qui s'appelle Près du mur.
De Deirdre Lorrain.
Qui est très très obscure. Et je ne sais pas si vous pouvez en parler, si vous vous en souvenez assez.
Oui. En fait, l'auteur avait voulu explorer les relations entre Morgane et Guenièvre. C'est une question qu'elle se pose depuis longtemps. Et puis finalement, ça n'est pas ça qui est venue, ça a été des retrouvailles et cet amour manqué dont on parle moins, mais qui est très important quand même dans les légendes arthuriennes, entre Morgane et Arthur. On parle de l'inceste, on parle de la naissance de Morgane, mais on ne se dit pas, mais il y avait de l'amour entre ces deux-là. Et là, dans ce qui est décrit, Morgane et Arthur appartiennent à deux... Alors, c'est une sorte d'uchronie, donc c'est vraiment... ça ne se rattache pas à notre chronologie, à notre histoire. Et donc, il y a une rencontre entre les gouvernants de deux pays, et donc entre Morgane et Arthur représentent deux pays en conflit, et c'est pour eux l'occasion de se retrouver et se perdre, mais ils se voient près du mur, le mur qui les sépare. Bon. C'est ma traduction de cette nouvelle. Hein. La difficulté, c'est que je suis l'anthologiste, donc c'est ma lecture. Peut-être que Derdre, si elle était là, en parlerait d'une façon totalement différente. Donc,
là encore, on voit les personnages réduits. En état de concept, vraiment, Merlin dit à Morgane non, tu ne seras jamais l'épouse. Mm-hmm. On les voit encore comme immobilisés, mais en même temps toujours en mouvement, tout le temps, comme une spirale finalement qui n'évolue pas, qui connaît des évolutions, qui connaît des variations, mais finalement les personnages restent toujours les mêmes.
Oui, et là Morgane se rebelle contre son destin, contre le rôle qui lui est assigné. Et effectivement, c'est quelque chose qui... Le rôle est assigné dans la légende arthurienne. Tu es la sœur, tu es la sorcière, tu es la fée. Tu es l'amante, mais pas l'épouse. Tu es la mère de Mordred qui sera parricide. C'est quand même un rôle lourd à porter. Mais à notre époque, combien sommes-nous nous révolter de temps à autre contre les étiquettes que les autres apposent sur nous? Pas forcément contre la vie que nous menons, ça peut arriver, oui, bien sûr. Mais parfois, ce sont les étiquettes, les regards des autres qui sont lourds à porter. Ceux qui disent « non, tu ne seras pas l'épouse ». Mais de quel droit tu me dis ça, toi? Voilà, je pense que c'est aussi quelque chose qui est une question qu'on se pose maintenant, et Morgane, maintenant, est un bon archétype pour poser cette question. Je pense qu'au Moyen-Âge, elle n'était pas l'archétype pour cette question.
Merci. On remarque dans votre roman que souvent les opposants, les forces maléfiques sont représentées par des femmes. Et on sait que vous avez donc vous avez un roman, je ne sais pas, ou une anthologie qui est sortie qui s'appelle Les Femmes Baroques.
Ah ouais.
Alors je ne l'ai pas lu, je ne sais pas, mais est-ce que là aussi on retrouve ce côté effrayant des femmes qui sont vraiment, enfin, qui représentent des forces à la fois pas totalement maléfique, mais là encore, il y a une espèce d'ambiguïté entre la... Elles sont toujours très belles, très joliment décrites, etc. Elles ont toujours sûrement des motifs pour agir ainsi, mais enfin, quel regard vous portez sur ces personnages féminins et qu'est-ce que vous avez voulu montrer, finalement
Ben en fait, je vais d'abord répondre pour les Dames Baroques. En fait, donc c'est une anthologie que j'ai dirigée, mais c'est pas moi qui ai écrit les textes. Mais effectivement, dans certains des textes, il y a des femmes fatales, dangereuses, mystérieuses comme ça. Dans d'autres, il y en a qui sont plus naïves et plus innocentes. Et alors là, ben, dans Lancelot, Morgane, moi j'ai repris, je suis bien restée dans le cliché, hein, donc faut qu'elle soit un peu intimidante, un peu maléfique, ça ajoute du piquant à l'histoire, là, franchement, c'est le côté pratique pour moi. Et après, ensuite, j'ai pas trop réfléchi au personnage. Au personnage féminin, j'ai l'impression que je l'ai créé
pas, ouais, c'est moche ce que je veux dire. Je ne l'écris pas quand même pour mettre en valeur les personnages masculins, mais ce serait comme des doubles négatifs des personnages masculins, en fait. Voilà, donc par contre, bon, dans la nouvelle où il y a une. Guenièvre aussi, je l'ai laissée dans son rôle de perturbatrice, entre guillemets, puisqu'elle trahit son mari, elle empêche Lancelot de trouver le Graal. Donc, la seule nouvelle où j'ai à peu. Enfin, il y en a une aussi où j'ai repris le cliché de la demoiselle en détresse, mais là, c'est celle dont vous parliez, dont tu parlais tout à l'heure avec le vampire, quoi. Mais là, c'était vraiment exprès, il me fallait ce thème-là pour réécrire, en fait, tout ce qui est fait dans les contes en général. De toute façon, dans les contes ou dans les histoires de la légende arthurienne, la femme, c'est soit une demoiselle en détresse, soit une sorcière qu'on doit redouter. Donc je suis un peu restée dans ce schéma. Et après, par rapport à l'histoire où il y a une reine qui se transforme en dragon parce que son mari l'a trahie, là, je me suis un peu plus centrée sur le personnage, justement, pour en faire davantage une victime, entre guillemets, mais quelqu'un qui serait plus, qui serait plus confronté à la réalité de ce qu'ont vécu les femmes. Parce que c'est vrai que souvent j'ai tendance à les présenter en ennemis, mais bon, j'oublie pas non plus que que ce soit au Moyen-Âge ou maintenant, elles n'ont pas toujours un rôle plaisant, qu'elles sont pas toujours respectées, et que bon, j'ai essayé de la présenter, cette femme dragon, un peu comme si elle était un chevalier. Donc c'est une personne qui a des valeurs, qui doit lutter, qui est trahie, et donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai plutôt utilisé des clichés, en fait, pour les personnages féminins.
Mais en même temps, en ce qui concerne Guenièvre, Morgane, c'est vrai qu'elle reste fidèle à elle-même, même s'il y a quand même une évolution tout au long du roman, puisque au départ c'est une vision très très éthérée, elle n'a pas de contour, en fait vous la décrivez sans contour, elle est toujours enveloppée de brume, et à la fin dans la nouvelle Les Descendants, quand on découvre que c'est la mère d'Arpad, cette fois-ci vous en dessinez les contours, quoi, enfin, donc il y a quand même une évolution. Mais par contre, ce qui est frappant, c'est le traitement qui est réservé à Guenièvre, qui est totalement répudié, que ce soit dans les descriptions que vous en faites et par Lancelot. Lancelot lui-même, la relation, enfin le trio Guenièvre, Lancelot, Arthur, on voit que vous privilégiez vraiment la relation entre Lancelot et Arthur, Lancelot étant repentant et voulant à tout prix récupérer l'amour d'Arthur, sa confiance, etc. Et que Guenièvre est complètement laissé en plan, et puis et vu la mauvaise œil, quoi, vraiment.
Ouais, alors, ouais, c'est vrai, je n'ai pas été tendre avec Guenièvre. Mais c'est parce qu'en fait, quand je me suis mis à réétudier la relation entre Lancelot et Arthur, et en fait, j'ai été un peu influencée par la série Camelot, d'ailleurs, parce que sur les dernières saisons, où ça redevenait un peu plus sérieux, d'ailleurs, Enfin, moi, quand j'écris, j'ai du mal à rester sérieuse, même sur des thèmes sérieux. Et je vois que Camelot, c'est parti en grosse déconnade. Et puis finalement, sur la fin, ça devient sérieux aussi. Donc je me dis, bon, on doit avoir un peu tous le même souci avec ça. Et donc je me disais, la relation entre Lancelot et Arthur, c'est en fait une histoire d'amour. C'est aussi pour ça que le titre, c'est Le Chevalier Trouble. Parce que je pense que... Enfin, je pense qu'il y a une relation plus que fraternelle entre Arthur et Lancelot, et je voulais un petit peu ressusciter ça dans le roman. Et donc, en fait, Guenièvre apparaît comme un obstacle, parce que, bon, de toute façon, elle trahit Arthur, d'une certaine manière, elle trahit Lancelot en restant avec Arthur. Et en fait, elle perturbe leur relation, alors qu'ils pourraient être... bon, je ne vais pas les mettre en couple, hein, mais ça pourrait vraiment... il n'y aurait pas eu Guenièvre, Lancelot aurait trouvé le Graal, bon, Arthur ne serait pas mort, il n'y aurait pas eu tout ça, quoi. Donc je me suis dit, j'ai voulu recentrer, en fait, sur l'amour que se portent Arthur et Lancelot, quoi. Mais ça ne m'avait pas tellement frappée avant. Enfin, je les voyais un peu, histoire de compagnonnage, chevalerie, machin. Mais là, je me suis dit, en fait, il y a vraiment une histoire d'amour entre Lancelot et Arthur, quoi. Et donc, Guenièvre me gênait au milieu. Mais après, on peut aussi se placer du point de vue de Guenièvre. J'en sais rien. Peut-être qu'Arthur l'a trompé. je ne sais pas. On ne le sait pas, ça, dans les histoires. Ce n'est pas dit. Donc,
Dans Kaamelott, oui.
Oui, voilà, oui, dans Kaamelott, oui. Mais après, dans les romans de chevalerie, on ne sait pas, tout d'un coup, elles intéressent à Lancelot. Mais bon, s'il faut, il y a eu quelque chose qui n'allait pas avec Arthur, quoi. Donc,
Il y a des versions où elle n'est pas la première épouse d'Arthur, il me semble.
Ouais.
Ouais.
Ça me dit quelque chose. Ouais, comme quoi il y a un truc. Elle l'a pas trahi pour rien. Voilà, non, mais c'est vrai que je... Oui, ça reste un cliché, en fait, aussi, Guenièvre, dans mon histoire. Je me suis centrée vraiment sur les personnages masculins, quoi.
Bon, mais écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de venir et puis de nous avoir parlé de vos ouvrages. Je vous laisse peut-être le mot de la fin, si vous avez quelque chose à ajouter.
Merci de l'invitation et de l'accueil.
Pareil.